RJB Info.
Le journal Joël Régli, bonjour.
Bonjour. Les amateurs d'échecs vont faire chauffer leurs neurones dès samedi à Bienne. Le festival international y commence. Une nouvelle formule sera testée pour le tournoi des grands maîtres, le triathlon. Deuxième volet de notre série sur les 50 ans du premier homme sur la Lune. Aujourd'hui, nous revenons sur une photo mythique de l'événement, celle de Buzz Aldrin et du drapeau américain sur la Lune. Certains la tiennent même pour fausse. Journée de pause aujourd'hui sur la Grande Boucle, l'occasion pour les coureurs cyclistes de se soigner et de reprendre des forces. Le point après le journal dans la page sport. Quelques petits cumulus vont se former cet après-midi sur les crêtes de nos montagnes, mais ils resteront inoffensifs. Au meilleur du jour, il fera de 24 à 26 degrés. Demain et jusqu'à vendredi, le temps restera serein et chaud. Le Festival international d'échecs de Bienne innove pour sa 52e édition. Le coup d'envoi de l'événement sera donné ce samedi et il se tiendra jusqu'au 31 juillet. Le point fort sera, comme chaque année, le tournoi des grands maîtres qui réunit pour cette édition 8 participants venus de Suisse, des États-Unis, du Pérou ou encore d'Ouzbékistan. Les organisateurs ont revu la formule et proposent un triathlon qui permettra de multiplier les rencontres. Les explications de Paul Koller, secrétaire général et directeur des tournois.
Ça consiste en mettant ensemble ce qui est en général trois tournois différents au niveau de la cadence. Le tournoi classique avec une partie par jour et le tournoi rapide, du coup c'est 20 minutes de temps de réflexion et le tournoi blitz qui est 5 minutes de temps de réflexion. Tout ça va donner un seul classement final et du coup ça multiplie aussi le nombre de parties jouées par les compétiteurs, ce qui permettra sans doute de donner plus clairement qui est le meilleur au total, avoir un classement plus clair que d'habitude. Souvent c'est très serré, ça se joue à demi-point. Là avec autant de parties jouées, on devrait avoir plus clairement les forces en présence et un classement plus clair.
Est-ce qu'il y a une volonté aussi de rendre le spectacle plus dynamique, plus attrayant?
Oui, ça c'est ce qu'on espère. En ce moment, au niveau des tournois très forts, il y a plusieurs essais qui ont été faits pour essayer de dynamiser les résultats et les parties. Et notre espoir, c'est qu'on propose par ce biais une formule qui va peut-être être adoptée par d'autres tournois ailleurs. On verra, mais j'ai bon espoir que ça va plaire aux spectateurs et aux joueurs aussi.
Des propos recueillis par Alexandre Steiner. Au total, plus de 700 personnes se sont déjà inscrites aux différents tournois proposés par le Festival d'échecs de Bienne. La commission des finances du Grand Conseil ne veut pas d'une loi instaurant un fonds pour le financement de projets d'investissement stratégiques. Cette manne aurait servi notamment à entamer les travaux d'assainissement urgent dans les prisons régionales, les établissements pénitentiaires ainsi que les gymnases. La commission estime toutefois qu'un tel fonds est contraire à la Constitution. Le canton de Berne doit aussi continuer à économiser selon elle. De son côté, le gouvernement a fait savoir son incompréhension face à cette prise de position. Le conseil exécutif maintient donc la solution du fonds. Des milliers de postes de télé allumés, des milliers d'yeux rivés tantôt sur l'écran, tantôt vers le ciel. Le 20 juillet 1969, l'homme posait pour la première fois un pied sur la Lune et les images étaient retransmises dans les médias. La plus célèbre d'entre elles, une photo mythique de Buzz Aldrin et du drapeau américain planté sur la Lune. Caroline Toussaint vous propose de revivre ce 20 juillet 1969 et de revenir sur la polémique qui a entraîné cette fameuse photo.
Il est 3 heures du matin en Europe, c'est une belle nuit d'été. Ceux qui ne dorment pas gardent un œil sur la Lune qui brille très fort. Mais pas très loin d'eux, il y a aussi le poste de télévision qui est allumé. Les éveillés du monde entier s'apprêtent à vivre un moment historique.
La caméra doit fonctionner automatiquement. La caméra qui est à l'intérieur du Mesa.
C'est bien ce que nous avons entendu, Jacques. Donc, Mesa a baissé, OK pour la télévision. Réponse de Houston.
À des milliers de kilomètres de la Terre, 384 400, très précisément, la fusée Apollo 11 s'est posée sur la Lune, à son bord. Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Une petite échelle est déployée depuis leur navette. C'est Armstrong qui descend le premier. Quand il pose son pied sur la Lune, il dit alors une phrase qui restera gravée dans les mémoires du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Son coéquipier Buzz Aldrin le rejoint vite. Les astronautes profitent d'être les premiers à fouler le sol lunaire. Ils gambadent, chantent. Ils voient la Terre toute petite si loin d'eux.
Hippity-hoppity, hippity-hoppity, hippity-hoppity,
Et puis, ils ne manquent pas de montrer d'où ils viennent. Buzz Aldrin plante un drapeau américain sur le sol désertique de la Lune. C'est là que Neil Armstrong en profite pour immortaliser ce moment mythique. C'est la photo de l'homme sur la Lune. Une image emblème de la conquête de l'espace par les États-Unis. On y voit les pas des Américains imprimés dans la poussière lunaire, Buzz Aldrin dans sa combinaison spatiale et surtout la bannière étoilée, le drapeau américain qui flotte. Mais de nombreux sceptiques ne veulent pas croire à l'alunissage. Pour eux, les Américains ont tout inventé pour frimer. Pendant longtemps, on a entendu dire que cette image n'était qu'une supercherie photographiée en studio. Mais c'est vrai ça. Comment le drapeau pouvait-il flotter alors que sur la Lune, il n'y a pas de vent ? À vrai dire, si l'on regarde bien l'image, on remarque que deux tiges maintiennent la fameuse bannière, l'une à la verticale, l'autre à l'horizontale, de quoi déployer le drapeau bien comme il faut pour montrer que les Américains ont pensé à tout. Mais les conspirationnistes ne s'arrêteront pas là. Pour eux, les ombres sur la photo ne sont pas naturelles. Pour les scientifiques, cependant, rien de plus normal. Le sol lunaire est désertique. La lumière du soleil peut donc venir de n'importe quel côté et ainsi créer des ombres dans tous les sens. Alors, photo réelle ou fake news ? La majeure partie des experts et scientifiques s'accordent avec la NASA et croient à l'alunissage. Pour eux, les enregistrements, les films et cette photo du 20 juillet montrent bel et bien qu'en 1969, l'homme a posé pour la première fois son empreinte sur la Lune.
Et demain dans notre série, on s'intéressera à la place de la Lune dans l'imaginaire. Facebook souhaite un soutien helvético-américain pour Libra, sa future crypto-monnaie. Le responsable du projet pour le réseau social a indiqué s'attendre à ce que la Suisse joue un rôle clé dans l'encadrement et la supervision de cette initiative. Des discussions préliminaires ont été menées avec la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. L'entité pourrait placer la monnaie de Facebook sous sa réglementation et sa supervision. Arrimer des wagons couchettes aux trains de marchandises qui circulent la nuit à travers l'Europe, c'est l'idée d'une association franco-suisse qui entend faire la promotion des déplacements en train de nuit entre les villes européennes pour concurrencer l'avion pollueur. Cette association est persuadée que son projet LunaJet peut être rentable. Elle lance d'ailleurs une étude de faisabilité. La vice-présidente de l'association, la conseillère nationale vert libérale Isabelle Chevalet.
Cette idée, elle est venue de passionnés des trains français qui cherchent des solutions pour rendre les trains de nuit rentables. Évidemment, le but de cette concurrence, c'est l'avion, c'est de montrer que voyager en train de nuit, c'est tout aussi confortable, c'est même plus confortable que l'avion et c'est pas plus cher.
On sait les difficultés horaires, souvent, de ces convois de transport de fret. Est-ce que c'est compatible, ça, avec une offre de transport de voyageurs de nuit ?
Ce problème existe la journée, en effet, parce que des trains plus lents, et lorsqu'il y a les intercities, eh bien, il faut pouvoir laisser passer les trains rapides. La nuit, on n'a pas ce problème, puisque les intercities ne circulent pas. Et dès lors, ça laisse de la place, justement, pour ces trains marchandises. Ces marchandises, d'ailleurs, qu'on demande toujours à passer de la route au rail. Et c'est vraiment une occasion multiple, et pour les voyageurs, et pour les marchandises, de se déplacer de manière écologique.
Les CFF accueillent cette proposition plutôt froidement, mettant en avant les écueils techniques. Les CFF préfèrent collaborer avec la compagnie autrichienne OBB, qui exploite déjà des trains de nuit. À l'étranger, 180 personnes ont été tuées en Asie du Sud-Est. Le nouveau bilan ce matin des inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles de la mousson. Le Bangladesh, le Népal, l'Inde et le Cachemire pakistanais sont notamment touchés.
À l'écoute d'RJB, il est midi 24.
Sport. Jour de repos ce mardi pour les cyclistes du Tour de France. Ils sont à Albi, où a été jugée hier l'arrivée de la 10e étape remportée par le Belge Wout van Aert. Mais on retiendra surtout le joli coup de l'équipe Ineos et le retard du Français Thibaut Pinot piégé par une bordure. La fin d'une première semaine de course déjà mouvementée. Et même les jours de repos, il y a des choses à raconter sur la route du Tour. Arthur Perrault.
Première pause pour la grande boucle après déjà 10 étapes. Dans cette édition 2019, l'équipe du Tour de France se repose aujourd'hui à Albi, une terre du rugby qui devrait permettre aux 171 membres qui composent le peloton de se ressourcer. Une journée où chacun a ses coutumes, pour les uns encore et toujours du vélo, un bon moyen pour que l'organisme ne coupe pas totalement avec le rythme habituel. Pour les autres, une bonne sieste dans l'après-midi sous les 31 degrés qui s'abattront sur le Tarn. Mais cette parenthèse en Occitanie permettra aussi au groupe de panser les plaies. Les soigneurs ne seront pas Thomas en reste, surtout dans le team Wanty-Gobert, avec un Johan Ofredo malade depuis vendredi dernier. La faute à une climatisation en panne dans son hôtel, le Francilien. C'est quand même accroché depuis pour rallier à chaque fois la ligne d'arrivée dans les délais. D'autres n'ont pas eu cette chance. Déjà deux retraits dans l'écurie Cofidis avec Nicolas Hédé et Christophe Laporte. On retiendra surtout la sortie de Patrick Bévin de l'équipe CCC. C'est lui qui a inauguré le tableau des abandons de cette 106e édition. Une liste qui n'a pas fini de s'allonger. L'an passé, 31 coureurs ont jeté l'éponge avant les Champs-Élysées.
Et demain, le peloton reprend la route direction Toulouse avant d'attaquer les Pyrénées dès jeudi. Ce sera l'affiche de la journée au Ladies Open de tennis à Lausanne. Le duel 100% suisse entre Timé Abashinski et Jill Teichmann au premier tour. Match programmé à 17h30. Duel entre deux copines également. La vaudoise et la biennoise s'entraînent souvent ensemble et se connaissent très bien. Timé Abashinski a hâte d'entrer sur le court.
Bah oui, parce que je joue à la maison et puis c'est clair que je vais pas trop regarder de l'autre côté du terrain. Je veux dire, certes, on est amis depuis un certain nombre d'années, mais je veux dire, ça fait partie du métier. Je vais jouer une joueuse, point. Je vais pas jouer une amie, je vais juste jouer une joueuse. Donc le but, c'est pas de l'écraser, le but, c'est d'essayer de gagner le dernier point. Voilà, mettre l'ego aussi de côté et juste faire en sorte peut-être de pouvoir lever les bras à la fin du match.
De son côté, Jill Teichmann se réjouit surtout de jouer en terre helvétique. Elle a fait cette année son entrée dans le top 100 mondial grâce à sa victoire à Prague au printemps. Mais la jeune viennoise de 22 ans s'attend aussi à un match compliqué face à Timé Abashinski.
Ça serait dur, bien sûr, mais c'est aussi cool. Moi, j'aime bien de jouer avec le public et qu'on joue dans le central. Donc, ça serait un très bon match. Je me réjouis beaucoup de ce match. C'est toujours bien d'avoir des tournois en Suisse et de jouer à la maison et avec notre public. Ça arrive normalement juste de temps en temps de la Fed Cup. Donc, c'est toujours cool et bien d'avoir le public de notre côté.
Propos recueillis par notre confrère de LFM, Romain Fellet. Autre Suissesse en lice aujourd'hui à Lausanne, la Neuchâteloise Colie Perrin, Stéphanie Feuguelet et Simona Walter.
Merci beaucoup Joël Régli. C'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui dans la région, même si de petits cumulus devraient ensuite se développer dans le Jura l'après-midi, tout comme des voiles d'altitude en fin de journée, ils ne seront en aucun cas menaçants, pas de pluie au menu. Côté température, la matinée est un peu fraîche, enfin la fin de matinée, mais même on est en début d'après-midi, donc on va parler directement de l'après-midi. Le mercure va décoller et atteindre 24 degrés dans le vallon de Saint-Imier, maximum 26 degrés à Moutier, tout comme dans le Seyland. Pour demain et jusqu'à vendredi, nous devrions rester en mode estival avec un thermomètre assez stable, voire légèrement en hausse. Un peu de nuages sont tout de même prévus, mais encore une fois, nous resterons au sec.